Parmi les qualités, il y a la figura. Il y a quelque chose de très particulier. Et on pourrait presque dire quel est le signe de la substance. Il y a comme un lien très spécial entre la figura et la substance. La figura, c'est pas seulement la figure, hein, qu'on apprenait bien. C'est la physionomie extérieure du pays. Et par rapport à l'homme, la physionomie particulière de son pays intérieur, de son petit royaume, donc de sa substance, de son âme. Il y a sûrement une relation très nette entre la figura d'un enfant et son âme, sa substance. Regardez la figura d'un enfant et celle d'un singe. Ce sont des comparaisons qui sont très intéressantes parce que la figura du singe n'exprime pas sa substance. Vous pourriez la regarder longtemps et vous ne découvrirez pas parce qu'il n'a pas de substance. Le singe, c'est une nature supérieure dans l'ordre de la nature, dans l'ordre générique, animal. Est un animal respectable et très très spécial. Alors il a une figura, c'est sûr qu'il a une figura, mais une figura qui exprime sa nature. Le petit enfant a une figura qui exprime sa substance, son âme. Et je parle de l'enfant parce que l'enfant n'a pas... Il a bien eu le péché originel, mais son âme n'a pas été trop abîmée par le milieu ambiant. Dès qu'il grandit, on a un gosse qui est marqué terriblement par son milieu. Regardez un gosse de 10 ans qui sort d'un milieu où il y a eu des luttes constantes, où au foyer c'est l'anarchie et la lutte entre le père et la mère, où la lutte avec les autres, ça se voit tout de suite. Ils ont la figure ravagée, triste. Alors que vous regardez la figure d'un gosse de 10 ans qui a ce qui est nécessaire à sa vie, à son épanouissement, il sera joyeux. C'est la joie qui domine, hein, parce que c'est la vie montante, son âme. Et un homme, une femme, arrivée à 30 ans, 35 ans, sa physionomie exprime profondément ce qu'elle vit. Et dans le regard, les yeux, ouvert le visage, les yeux. Et voir ce que Platon disait des yeux. Il faut que ça, des yeux. Et il y avait un vieux père maître qui disait, c'est toujours le regard qu'il faut regarder. Parce que quand il y a un groupe, on voit tout de suite les regards de ceux qui sont particulièrement unis entre eux, et le regard tout de suite nous fait comprendre ce qu'ils pensent et le renvoie chez l'autre. Et c'est vrai, le regard dans la physionomie, dans le visage, c'est la lumière. Il y a quelque chose de très, très spécial. Quand vous voyez un regard triste, perdu, mort, il n'y a plus de vie. Alors quand vous voyez quelqu'un, au contraire, qui est dans la joie, mais une joie, pas seulement un moment de joie, mais dans un climat de joie, dans un climat de où son être peut s'épanouir, et il y a quelque chose de beaucoup plus réconfortant. Vous voyez, dans la peinture, quand Rembrandt arrive à s'exprimer lui-même et se peindre lui-même, c'est extrêmement significatif, parce que il ne voit pas que de l'extérieur, il voit de l'intérieur, et il essaie d'exprimer ça. Alors il y a une intériorité ordinairement dans la peinture, dans la sculpture, lorsqu'on exprime le sourire de l'enfant. Dans la sculpture égyptienne, on n'avait jamais exprimé le sourire de l'enfant. Il faut atteindre les Grecs. C'est très significatif, ça, pour voir qu'il y a quelque chose de très particulier qu'on saisit dans le regard, dans la physionomie. Et ce quelque chose de très particulier, c'est parce que la physionomie est en relation, la figura est en relation directe à travers la quantité, à travers la qualité, mais c'est elle qui fait l'unité de la figura. Vous savez, dans la figura, la figure, et je l'étends, hein, mais c'est surtout vis-à-vis de la figure humaine, du corps humain, et dans le corps humain, la physionomie. Il y a une très grande diversité et une profonde unité qui ne s'exprime pas toujours, du reste. Quand quelqu'un est dans l'angoisse, dans l'indétermination de sa vie, il y a quelque chose qui s'exprime à travers sa figura. Donc, parmi les qualités, la figura joue un rôle très spécial pour manifester la substance, l'âme. Mais ce n'est pas pour rien quand la mère regarde son gosse et qu'elle lui dit « As-tu maman ? Je le vois à tes yeux ». Et c'est vrai. Comment le voit-elle? Il y a quelque chose qui s'exprime. Et l'unité de l'âme s'exprime dans cette unité de la figure, de la figura. Donc, au point de vue philosophique, au point de vue artistique, on comprend très bien, et les artistes aiment de peindre la figure. Et ça leur dit beaucoup. Ça leur dit énormément de choses. Ils sont habitués. Et ils devinent par le fait même beaucoup de choses. Nous, on ne fait plus grande attention à la figura. On devrait faire grande attention. Pas trop. Parce que la figura n'exprime pas toujours ce qu'il y a de profond dans l'âme. La figura est quand même très dépendante d'un atavisme. On ressemble à ses parents, on ressemble à ses grands-parents, que souvent l'atavisme saute une génération. Et ça, c'est naturel, ça n'exprime pas l'âme. L'âme, notre âme, elle est spéciale pour chacun d'entre nous. C'est la même. C'est l'âme humaine. Mais elle est spéciale pour chacun d'entre nous. Elle est unique. Il n'y a pas deux âmes pareilles. Ça, c'est sûr. Tandis que dans une famille, il y a des frères et sœurs, il y a des jumeaux. Il y a quelquefois des jumeaux qui font que la vieille grand-mère n'arrive pas à distinguer les deux jumeaux. N'est-ce pas? Parce qu'ils se ressemblent tellement. Et le jumeau est obligé de se présenter. Mais les deux jumeaux, au point de départ, quand ils sont dans le berceau, il faut la mère pour les distinguer. Quand ils grandissent, ils se différencient. Et alors là, leur âme personnelle met sa note particulière, sa note spéciale. C'est sûr. Du fait même que le visage est très différent suivant les moments de notre vie, qu'il y a quelque chose qui ne change pas, et puis quelque chose qui change. Les luttes, la vieillesse change le regard. Il met quelque chose de différent. Alors, on voit bien comment l'individu se répercute dans le visage et la subsistance de l'âme se manifeste dans le visage. Alors évidemment, il y a les deux. Il y a l'individu et l'âme. L'individu, c'est l'atavisme. Le point de vue subsistentiel, c'est ce qu'il y a de personnel. Et la figura fait l'union des deux. L'âme unie au corps. Et c'est ce qu'il y a de si important dans le visage, dans la physionomie. Et un artiste qui est habitué de regarder le paysage, la physionomie d'un pays, a aussi et peut avoir un regard très spécial sur la physionomie humaine, en voyant tout de suite cette espèce de combat. Il y a un combat entre l'atavisme et notre âme. Le combat entre l'individu et la personne. Et ce combat se manifeste dans la physionomie. Et c'est ça qui est très intéressant, très, très beau du reste. Et ce combat avec l'âge s'unifie. Alors que dans la montée, le combat peut être très fort. Parce que l'atavisme porte en soi quelque chose que nous ne connaissons pas. Nous connaissons mal notre atavisme parce qu'on est dedans. Dans une famille où il y a de nombreux enfants, les gens d'extérieur voient tout de suite le type de la famille. Et les gens de l'intérieur, c'est-à-dire les enfants, ne le voient pas du tout. Et ça, c'est très curieux parce que le type familial, c'est l'atavisme. Et le point de vue de l'âme, c'est personnel. Chaque enfant a sa personne, son âme. Et ceci se reflète dans la figura. Et la figura manifeste à la fois la dépendance individuelle, l'atavisme, et manifeste la finalité de la personne. C'est pour ça que, arrivé à un certain âge, au fond, la personne l'emporte, l'expression de la personne l'emporte sur l'atavisme. Un enfant, l'atavisme est presque total. Dans un homme fait, 45 ans. L'atavisme a été assumé par sa personnalité. Alors, ceci, ça nous fait comprendre combien la figura humaine manifeste ce qu'il y a de propre à l'homme. L'âme créée dans le corps, l'âme créée, l'âme personnelle créée dans un atavisme. Alors, et quand je parle de l'atavisme, il y a l'atavisme de la famille et l'atavisme du pays. C'est sûr, l'atavisme de la race blanche, noire, rouge, jaune. Et ça se répercute. C'est extrêmement cru combien ça porte et combien à un certain âge s'est dépassé. Et ça se dépasse plus ou moins vite, le point de vue personnel. Vous avez un type personnel contemplatif qui est le même si on est européen ou américain ou africain ou chinois. Et la particularité de la famille Saint-Jean se répercute chez l'Américain, chez le Français, chez le Belge. chez l'anglais, chez le chinois, chez le japonais, chez le coréen, chez le mexicain. Et dans la mesure où l'atavisme personnel dépasse, du moins dans la mesure où la forme personnelle dépasse l'atavisme de la nature, il y a des amitiés entre Mexicains, Européens, Américains. Ils se retrouvent au point de vue personne. Et c'est l'intérêt d'avoir une communauté où, de fait, les différents pays se retrouvent. Alors, dans la vie commune, l'atavisme domine toujours. Hein, puisqu'on dit la vie commune, donc la nature humaine, toujours. Mais dans la mesure où on arrive à avoir une vie contemplative, la vie contemplative, elle est personnelle. Et d'un point de vue personnel, on arrive à dépasser ce point de vue de l'atavisme. Il y a la figure d'un grand actif. Il y a la figure du contemplatif. Vous voyez, on voit bien la figura d'un chartreux, et la figura du doyen d'une paroisse. C'est pas la même figure. Et il peut se faire qu'ils soient frères. Donc, il y avait l'atavisme commun. Et cependant, ils ont eu leur formation tout autre qui fait qu'il y a quelque chose de particulier et qui se différencie. Quand ils se retrouvent, ils voient bien que ce qui est commun, ce qu'ils ont vécu dans leur jeunesse de commun, demeure, c'est sûr, ils sont frères, et c'est quelque chose d'être frère, d'avoir un atavisme commun. Et cependant, ils ont choisi une orientation de vie totalement différente. Celle du chartreux et celle du curé doyen qui devient chanoine. Ou qui devient évêque. Parce que les chanoines ne font pas faire leur portrait, mais les évêques font faire leur portrait. Et alors, le peintre qui fait le portrait de l'évêque comprend que la physionomie de l'évêque est particulière. Il y a quelque chose. Oui, ce qu'on voit bien, les portraits de tous les évêques successifs. La figura et la substance. Je crois que ça, il faut arriver à saisir ça, parce que ça nous aide beaucoup à comprendre ce que c'est que la substance. Une substance incarnée. Vous voyez, ça nous fait comprendre beaucoup ce qu'est l'âme. Un vrai portrait de la physionomie de quelqu'un, de la figure, nous aide à deviner son âme. Il y a la manifestation. Ça fait comprendre comment l'âme, en informant le corps, ce corps déterminé par l'atavisme, entièrement déterminé par l'athavisme, physiquement déterminé par l'athavisme, va se modifier en fonction de la finalité qu'on a choisie, en fonction de l'orientation qu'on a choisie. Et celui qui serait suffisamment physionomiste devrait toujours, lorsqu'il fait le portrait d'un évêque, demander de voir son frère ou sa sœur, parce qu'il verrait ce que son choix personnel a modifié en lui. Il peut le voir uniquement en voyant la personne. Si on est suffisamment physionomiste, on voit tout de suite dans le regard, dans la manière d'être. Ça devient quelque chose de personnel. Et tout est transformé par le point de vue de la personne. Mais le point de vue de la nature demeure toujours. Alors, ça peut être comme une espèce de combat. Quand on a un athévisme très lourd, vous voyez, ça peut exister. Je me souviens de ce que m'a raconté une fois une petite sœur carmélite qui était... Elle n'était pas sœur de cœur, elle était stourière. Elle m'a raconté qu'elle ne savait pas, jusqu'à 20 ans, quels étaient ses vrais parents. On lui avait dit qu'elle avait été adoptée. Elle n'a jamais vu ses parents. Elle a voulu les voir et savoir où étaient ses parents. Vous voyez ? Tout ça, c'est la physionomie. Hein. Il y a un appel de gens. Elle les a découverts. Tous les deux étaient en prison à perpétuité. C'est pas commode à porter, hein, ça. Son père et sa mère n'avaient pas eu d'autres enfants qu'elle. Elle était au Carmel, essayant de se sanctifier. Elle avait été adoptée toute petite. Mais il y avait en elle la voix du sang, revoir ses parents. Elle les a revus l'un et l'autre en prison. Oui, alors on voit la lutte, dans des cas comme ça, la lutte entre l'atavisme et la vocation personnelle. La vocation personnelle lui donnait un caractère très particulier, parce que j'étais quelqu'un qui avait lutté contre la force de l'atavisme. Le corps et l'âme. Par le corps, nous appartenons à la communauté humaine. Et appartenir à la communauté humaine, c'est quelque chose de fondamental. Ça ne peut pas s'enlever, ça. On doit l'accepter. Mais notre vocation personnel à modifier progressivement ce poids de l'atavisme. Ce poids de l'atavisme où, quelquefois, l'atavisme aide. J'avais une brave tante qui était carmélite, prieur du Carmel, et qu'on me disait une vocation de carmélite demande 5 ou 6 ans d'atavisme. Et c'est très intéressant de voir ça. Une convertie d'une famille qui aurait été longuement athée ou païenne ne pouvait pas tout de suite arriver. Vous voyez, bon, il y a du vrai et il y a quand même une erreur. Parce que la conversion est personnelle et c'est la grâce. Et la conversion suffit. Parce que la conversion porte en elle le point de vue de la vocation. Mais le poids de l'atavisme est terrible en vie commune. Et il revient en vie commune. La vie commune, ce n'est pas des personnes. La vie commune, c'est tout l'atavisme que nous portons de la nature humaine et qui fait ces conflits. On voit très bien et on sent très bien la diversité qu'il y a. Il y en a qui aiment la vie commune, mais à un point extraordinaire, il faut que tout soit dans la vie commune. Et ça, c'est la plus grande joie. Alors que d'autres, au contraire, en raison de leur personne beaucoup plus développée, font que la vie commune est lourde. Et quelque chose de pénible, qui demande une grande sainteté. Ben, tout ça, c'est la figura, hein. Et ça se manifeste à travers le corps que montre comment l'âme qui tend vers la personne, c'est mon âme qui est personnelle. Elle est naturelle, mon âme, dans la mesure où elle informe le corps. Oui, donc c'est ça qui est très curieux dans l'âme humaine, c'est qu'il y a un poids de l'âme humaine qui est l'âme qui informe le corps. Et il y a dans l'âme humaine quelque chose, l'âme humaine en relation vers sa fin propre, sa vocation. Et alors qu'il y a quelque chose de tout à fait humain et qu'il y a quelque chose de tout à fait personnel. Et alors, la vocation contemplative est essentiellement personnelle. Il n'y a pas de contemplation communautaire. C'est bien dommage, mais il n'y a pas de contemplation communautaire. Il y a le repas communautaire. Mais la contemplation, c'est quelque chose de personnel et qui tend de plus en plus à être personnel. Plus la vocation, plus la contemplation est profonde, plus elle est personnelle. Et elle arrive même à exiger la solitude. La contemplation philosophique mène à la solitude. Ça, c'est très net. Et la vie commune, elle existe dans la mesure où on l'accepte. Elle est quelque chose de lourd pour le contemplatif. Alors, au point de vue chrétien, il y a la charité fraternelle qui vient alléger la vie commune et permettre à la vie commune de s'orienter vers la contemplation. Parce que la fine pointe de la vie commune, c'est la charité fraternelle, les liens personnels. Mais ça, c'est au point de vue surnaturel, c'est au point de vue chrétien. Vous voyez ? Et ça qui est très curieux, c'est qu'au point de vue chrétien, on retrouve les deux, puisque c'est l'homme, avec sa nature et sa personnalité. Alors vous voyez, avec ce problème de la figura, comment l'âme humaine à la fois informe la matière, et par là, l'âme humaine est principe naturel. Elle est cause formelle de l'information du corps. Et comment l'âme humaine a un dépassement qui est le point de vue personnel. Et ce point de vue personnel se précise grâce à la finalité. La contemplation nous donne un très grand sens de notre finalité personnelle et non pas de notre finalité commune. Alors que l'âme, dans ce qu'elle est, l'âme humaine, elle informe le corps. Et donc, on retrouve dans la physionomie ces deux aspects. Alors, l'avantage de la physionomie et du regard, c'est que j'ai sensible. La substance, je ne la vois pas. Mon âme, je ne la vois pas. Mais mon âme se traduit dans cette information. Et là, le point de vue de l'atavisme est très fort. Il est transformé par l'âme et il demeure. Le corps est avant l'âme. C'est une des raisons du reste pour lequel la position de saint Thomas, je crois, est beaucoup plus juste. Parce que saint Thomas, en montrant que l'âme n'est pas créée au moment de la conception, saint Thomas montre l'importance de l'atavisme. Si l'âme était créée tout de suite, l'atavisme serait beaucoup moins fort. Tandis que l'atavisme, au sens très fort, est très, très puissant en nous. Et tant que l'âme n'est pas créée, l'atavisme est à l'état pur. Comme chez l'animal, l'atavisme est impur. Il y a beaucoup plus de ressemblance chez l'animal entre le petit chat et sa mère qu'entre le petit enfant, homme et sa mère. C'est très curieux, ça. Mais c'est là où on voit justement combien il y a dans l'homme un dépassement de la personne. Il y a en lui une âme qui est substance, principe d'être. Tandis que dans le chat, il n'y a pas d'âme, principe d'être. Il y a une forme particulière qui fait que c'est un chat. Mais le chat est entièrement pris par l'espèce. Une univocité parfaite. Voyez ? Alors, je mets à côté de ça, vous voyez là l'importance qu'il y a à distinguer la connaissance par genre et différence spécifique et la connaissance proprement analogique. Par la connaissance du genre et de la différence spécifique, vous atteignez la nature, vous atteignez l'atavisme, vous atteignez le point de vue commun. Par le dépassement analogique, où nous regardons l'être et les transcendentaux, le vrai, le bien, l'un et l'individu particulier, on a une connaissance analogique. Et dans la connaissance analogique, justement, on peut saisir ce qu'il y a de propre à chaque personne. La personne se caractérise par son lien avec la finalité. Une personne très finalisée, ça, elle a son caractère propre. Lorsqu'elle n'est pas très finalisée, l'individu l'emporte. Alors, elle s'ennuie seule. Elle s'ennuie seule. La personne ne s'ennuie jamais seule, parce qu'elle est liée à la fin. À sa fin qui est Dieu, ou à sa fin qui est l'ami. Elle s'ennuie jamais. Tandis que si notre connaissance humaine n'atteint pas ce point de vue analogique et reste au niveau genre et différence spécifique, on a toujours besoin de vivre en communauté. Vivre solitaire, il n'y a rien de plus ennuyeux. Tandis que vivre en communauté, on a chaud. Parce qu'on voit son semblable. Vous voyez, là, vous avez le moyen de mieux saisir par ce problème de la physionomie. Et ce problème de physionomie reste quelque chose de très important pour nous, parce que c'est sensible. Alors, on distingue tout de suite. Vous voyez, quand on dit « Ah, tu restes trop longtemps le fils de tes parents », quand on voit quelqu'un de pas très formé qui, même à 40 ans, a besoin du biberon, il a besoin de sommeil. C'est le point de vue de l'atavisme, c'est le point de vue générique qui l'emporte. Alors, il s'ennuie seul. Il a absolument besoin du compagnon. Asinus, asinum fregat. Vieil adage latin, l'âne a besoin de fréquenter l'âne. L'homme qui demeure dans le sens générique a besoin de se réchauffer à côté de l'homme. Tandis que s'il y a un dépassement personnel, si on atteint vraiment sa fin, la finalité, on est fait pour aimer. Le chat n'est pas fait pour aimer. Il est fait pour produire d'autres chats. Mais pas pour aimer. Si on atteint par l'amitié l'autre, on est finalisé, on dépasse l'aspect générique, on dépasse l'atavisme, on atteint quelque chose de différent, quelque chose de personnel. La personne se dévoile là. Et si on atteint Dieu en le contemplant, alors on atteint vraiment sa fin. Et on comprend qu'il y a dans notre âme quelque chose de spirituel qui est fait pour Dieu. Notre âme est faite pour Dieu et elle ne peut se reposer qu'en Dieu. Elle ne peut s'arrêter qu'en Dieu. Vous voyez ? Combien ce problème de la figura, ça nous montre d'une façon tangible. On peut le voir. Cette complexité d'une âme spirituelle informant un corps. D'une âme spirituelle informant un corps. Et c'est très intéressant à ce point de vue-là, parce que ça nous montre d'une façon tangible comment cette âme spirituelle a sa finalité et combien cette âme spirituelle, en tant qu'elle informe le corps, tombe dans l'aspect générique et a besoin, asinum fregat, a besoin d'avoir son semblable à côté qui la réconforte. Il faut saisir ça de multiples manières, hein, pour que ce ne soit pas si vite. Hein. On codifie la connaissance analogique, le dépassement personnel par rapport à la nature. Et alors, il faut arriver à le saisir sensiblement. Et à ce point de vue-là, la vie commune que vous menez est une expérience merveilleuse. C'est sûrement là où on comprend le mieux, parce qu'on le comprend en famille. Mais en famille, c'est trop serré. Alors on se révolte. C'est le phénomène aujourd'hui du gosse qui ne peut pas rester trop longtemps dans sa famille. Arrivé à 15 ans, 16 ans, il veut quitter. Alors, c'est tout à fait normal, parce que sa personne pousse. Et sa personne ne peut pas rester au niveau famille. Elle a besoin absolument de découvrir l'amitié. Alors, si elle découvre l'amitié, elle pourra rester en famille. Parce qu'il y aura une soupape de sûreté. Et puis, grâce à l'ami, s'il tombe bien, il pourra découvrir la contemplation. Alors, s'il découvre la contemplation, il pourra rester en famille, exactement comme pour un moine. S'il découvre la contemplation, s'il découvre l'amitié, il peut accepter le point de vue commun. Mais s'il ne le découvre pas, le point de vue commun risque de l'étouffer. Parce que il faut qu'il sorte de ce point de vue commun. C'est la complexité de la vie humaine, ça. Et comme le problème de la substance est découvert à partir de l'homme, il faut essayer de découvrir à partir de quel moment la substance se manifeste à travers le corps et comment elle manifeste sa présence par la physionomie. C'est sûr, le point de vue de la connaissance que nous avons une âme capable de connaître, ça se dévoile bien plus par la connaissance métaphysique. La connaissance métaphysique me fait connaître beaucoup plus profondément ce qu'est la substance. Mais comme je suis une âme dans un corps, j'ai besoin de voir l'écho de la substance à travers le corps, dans la sensibilité, le regard fait comprendre l'intériorité de mon âme, de ce que je sens. il le manifeste à travers le corps. Et le peintre, le grand peintre, essaiera de l'exprimer à travers la physionomie. Et c'est cela qui l'exprime le mieux, cette alliance âme et corps. Substance humaine, âme informant le corps, mais l'âme dépassant le corps. Et l'âme humaine n'est véritable âme que lorsque elle pense et lorsqu'elle aime spirituellement. Et le premier moment où elle a dépassé le point de vue générique de l'atavisme, de la nature, c'est l'amitié. L'amitié est personnelle. Il n'y a pas d'amitié communautaire. Elle est personnelle. Et elle est le point qui permet le dernier dépassement, la contemplation.